Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Charles Le Brun, le peintre du Roi Soleil, c'est le titre de l'exposition que propose le Louvre Lens jusqu'au 29 août prochain. Franck Ferrand reçoit sa commissaire cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Bénédicte Gady est co-commissaire de cette exposition avec Nicolas Milovanovic. Je suis heureux de la recevoir, ainsi que notre monsieur peinture, Serge Lega, que connaissent bien les auditeurs de cette émission. Et puis, tout à l'heure, très peu de temps avant le carillon, je répondrai à la question de Noémie, qui souhaite connaître l'origine du Vacherin. Quel est le rapport avec le Brun? Aucun, je vous rassure.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Imaginons, à Dieu ne plaise, que le château de Louis XIV vienne un jour à disparaître, que la furie des éléments ou la folie des hommes ait raison de ses fortes assises et que le site versaillais, à l'image de celui de Marly, ne soit plus, a écrit Claude Nivelon. Imaginons ce désastre effroyable, eh bien, à ceux qui chercheraient à se faire une idée la plus juste du style et de l'esprit versaillais, je donnerai d'abord ce conseil. Étudier Le Brun. Étudier Le Brun. Le fait est que la plus belle part du génie créatif de Le Brun s'est exprimée à Versailles, où il a réalisé ces grands décors dont il a donné et le ton et le style. Au moment où Mazarin, on est à la fin des années 1650, au moment où Mazarin présente Charles Le Brun à son filleul, le peintre est déjà lancé. Il a réalisé un certain nombre de décors pour la meilleure société. Il faut vous dire que très vite la cour va se l'accaparer pour lui commander des œuvres très variées, des scènes équestres, de vastes décors, des motifs pour des jardins, des cartons de tapisserie, des dessins de meubles et de grands objets décoratifs. C'est bien simple, Charles Le Brun est le plus doué de sa génération. J'ai oublié de vous dire que le filleul de Mazarin, ce n'est autre que, bien sûr, le roi Louis XIV. Ce jeune roi qui, après la mort de son parrain, en 1662, va s'accaparer littéralement Le Brun. Il lui accorde des lettres de noblesse dans lesquelles il le mentionne comme premier peintre du roi. C'est vous dire si la carrière de l'artiste a d'emblée connu une véritable apothéose, avec une pension annuelle de 12 000 livres. Le Brun obtient également la charge de garde général du cabinet des tableaux du roi, avec une collection qui a été commencée par François Ier et qui, à cette époque, est devenue l'une des plus importantes d'Europe. Le Brun va se charger désormais de toutes les grandes commandes royales et il a pour cela affaire à celui qui est son patron direct d'une certaine manière et qui bientôt va devenir son protecteur, c'est Colbert, Jean-Baptiste Colbert, qui se trouve être le surintendant des bâtiments, qui est le véritable commanditaire dans tous les domaines de la décoration, qu'il s'agisse de l'architecture, des jardins, du mobilier, des objets d'art, etc. Charles Le Brun est membre fondateur de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Il travaille, j'allais dire sous les ordres directs, en vérité, main dans la main avec Colbert, qui va lui demander de créer le véritable style du règne, de codifier les règles de l'art. Ça tombe bien, Le Brun est un orateur, c'est quelqu'un qui sait parler de l'art aussi bien qu'il sait peindre. Il veut que l'art de Louis XIV, l'art de Louis le Grand, s'adresse d'abord à l'intelligence et non pas seulement au plaisir de l'œil. Il va donner de tout cela une belle démonstration dans ses propres œuvres. Il est donc au service du roi, ce Le Brun, et il est à la tâche. Il est à l'œuvre sur tous les chantiers, une charge de travail absolument considérable. Il ne peut plus, à ce moment-là, continuer à travailler pour sa clientèle privée. Et Dieu sait qu'il avait pourtant des clients tout à fait remarquables. On ne le voit plus travailler dans les églises, ou presque plus. On ne peut plus citer que la résurrection, peinte en 1676 pour la confrérie des Merciers de Paris. Cette résurrection, aujourd'hui, si vous voulez la voir, il faut vous rendre au musée de Lyon. Et puis, la descente de croix de 1679, commandée justement par les carmélites de Lyon, et qui se trouve, elle, c'est tout le hasard des affectations républicaines, des affectations révolutionnaires, qui se trouve, elle, en dépôt au musée de Rennes. Quant à Colbert, il fait travailler un peu Lebrun pour son domaine de Sceaux, mais disons-le, l'artiste n'est plus disponible car maintenant il travaille essentiellement pour le roi. Il travaille pour des commandes publiques. C'est lui qui, notamment en 1661, donc vraiment très tôt, hein, dès avant la mort de Mazarin, va être chargé de décorer la voûte de la galerie d'Apollon au Louvre. De 1665 à environ 1673, il dessine également l'histoire d'Alexandre. Vous savez, ce sont ces tableaux gigantesques que pendant très longtemps, on n'a même pas pu exposer parce qu'on n'avait pas de salle assez grande. Il a fallu attendre le nouveau Louvre pour qu'on puisse voir cette histoire d'Alexandre. Ces quatre immenses tableaux où passe un souffle d'épopée. Des tableaux également pour le château de Saint-Germain-en-Laye, qui est la résidence principale de la cour. Et puis, évidemment, Versailles. Versailles sera le champ d'expression du talent et même du génie de Charles Lebrun. C'est à Versailles qu'il va donner naissance à un véritable style Louis XIV. Un style qui, disons-le, s'éloigne de plus en plus des maîtres qui ont pu influencer Lebrun dans sa jeunesse. Nous y viendrons tout à l'heure avec mes invités. Un style qui se personnalise, qui s'identifie et qui va connaître sans doute son plus haut niveau dans le décor de l'escalier des ambassadeurs qui est réalisé à Versailles entre 1674 et 1679. On peut sans doute parler là du chef-d'œuvre de Lebrun.
L'acte 3 de la tragédie lyrique d'Ardanus de Jean-Philippe Rameau à l'instant sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous proposez de faire plus ample connaissance avec celui qui s'est surtout illustré dans la décoration du château de Versailles, le peintre de Louis XIV, Charles Lebrun.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Lorsque François d'Orbay qui est non seulement le gendre mais aussi le successeur de Louis Levaux, demande à Lebrun de se charger de la décoration de l'extraordinaire escalier des ambassadeurs. C'est le nom, le surnom qu'on lui donnera, hein, ce grand escalier de marbre qui donnait accès au nord, au château de Versailles, aux appartements du roi, ce qu'on va bientôt appeler à partir de 1682 le grand appartement. Lorsqu'il est en charge de cette commande, Lebrun est conscient que l'Europe entière a les yeux rivés sur cette grande réalisation et que c'est de là que découlera d'une certaine manière tout le reste. Alors il va donner, dans cette entreprise hors du commun, la plénitude de son grand art. On retrouve évidemment les références à l'antiquité gréco-romaine, on retrouve l'habituel Olympe avec Apollon, Hercule, Minerve, les Muses, les Atalantes, etc. Mais aussi de plus en plus des allégories de la France, des vertus, avec aussi une variation dans les thèmes décoratifs, soit en camaïeu de bleu lapis sur fond d'or, soit en grisaille. On va voir apparaître peu à peu l'histoire réelle, on va voir des personnages réels prendre peu à peu la place des dieux et des déesses de l'Olympe. Nous en reparlerons de ça tout à l'heure, c'est une question que j'ai très envie de poser à Bénédicte Gady. Cette irruption de l'histoire de Louis XIV dans la thématique de la décoration de l'escalier des ambassadeurs. On peut dire de Lebrun qu'il a de nombreuses cordes à son arc, il maîtrise absolument tous les arts, il va agrémenter les parois de cet escalier des victoires du roi et de son frère sous forme de vrais tableaux, mais il fait des chutes d'armes, des allégories, je vous l'ai dit, beaucoup de trompe-l'œil, beaucoup de grisailles, il fait entrer le réel dans la légende et, encore une fois, il dépasse l'Olympe pour nous faire entrer de plein pied dans la vie même de son siècle. Et d'ailleurs, 5 ans plus tard, il va encore plus loin lorsqu'il s'agit de décorer la grande galerie de ce château de Versailles. Vous savez que, à la place de la terrasse de François d'Orbais, le nouvel architecte Jules Hardouin Mansart va créer une immense galerie. Eh bien, cette galerie, le décor en est entièrement confié à Lebrun, et d'ailleurs on fait plus que le décor, on fait plus que lui confier le décor, puisqu'on lui confie aussi l'ameublement, tout le grand mobilier d'argent qui va venir illuminer la grande galerie de Versailles, ce que nous appelons la galerie des glaces, a été confié au dessin de Lebrun. Alors Lebrun n'a pas lui-même ciselé les tables et les girandoles d'argent, mais il en a fait tout le dessin. Initialement, il s'agissait de rendre hommage à Hercule. Ça devait être la galerie d'Hercule. Eh bien, petit à petit, c'est un vaste programme qui célèbre les actions les plus glorieuses de Louis XIV lui-même. On fait entrer le décor de la grande galerie dans l'actualité, si je puis dire, et Louis XIV devient le centre et le sujet des compositions principales, avec au centre de la voûte, le roi gouverne par lui-même et le faste des puissances voisines de la France. Donc, en quelque sorte, une évocation de la politique de son temps. Glorification de cette politique, bien entendu, glorification d'une histoire en train de s'écrire, loin des allusions historiques et mythologiques habituelles. Charles Lebrun a le don inné de conférer à ses figures et aux histoires qu'il peint au plafond et sur les murs de Versailles une majesté particulière. Sa grandeur s'accorde à la grandeur Louis XIVienne et d'une façon plus générale à la grandeur de son siècle. Il met véritablement son art au service de la monarchie en exaltant les grandes actions du roi. Ça lui vaudra d'être plus tard réduit au rang et au statut d'un artiste de propagande. Il est en quelque sorte celui qui aurait été le turiféraire de Louis XIV, sans mesure, sans recul. C'est lui faire, à mon avis, un mauvais procès. Il était là pour donner au grand règne un décor à sa mesure, et il l'a fait. Il l'a fait avec une fécondité tout à fait extraordinaire. Le Bernin, le grand artiste italien, parlait à propos de l'art de son confrère français d'une abondance sans confusion. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, les cornes d'abondance regorgent sur les décors de Lebrun. Tout ça est foisonnant, tout ça est palpitant, mais ça reste lisible, avec une clarté toute française qui témoigne de la très grande élévation de vue de Charles Lebrun. Cet homme-là a digéré tous les vieux canons de la Rome antique et moderne. Il a transcendé dans une forme à la fois ample et vivace. Il a transcendé le vieux fond de la culture classique pour donner naissance à ce que plus tard on appellera l'art français. Le père de l'art français, c'est le Brun d'une certaine manière. Vous savez qu'autrefois, on utilisait notamment dans l'architecture et aussi dans l'architecture intérieure, dans les grands décors, on utilisait les ordres doriques, ioniques, corinthiens, auxquels on venait d'ajouter l'art toscan, l'ordre toscan. Eh bien, le Brun va reprendre tout ça, va le mêler, va en faire une sorte d'ordre royal français, dont les lys, les couronnes, les palmes, les monogrammes constituent le nouveau répertoire. Et ce faisant, il a donné naissance à toute une série de décors qui vont servir de modèle à l'Europe entière. Alors, il ne peut pas travailler seul, bien entendu. L'atelier de Lebrun est extrêmement fourni et il va avoir sous ses ordres un certain nombre de peintres de talent qui vont couler leur talent dans le génie du maître. Je pense à Lafosse, bien entendu, Jouvenet, Ouasse, les frères Boulogne, etc., qui vont se mettre à travailler pour le génie de Lebrun. Premier peintre dont l'influence va s'étendre bien au-delà, il assure à Versailles en quelque sorte la gloire du style Louis XIV.
Vous le savez, tous les jours, vous pouvez participer à cette émission au cœur de l'histoire en réagissant au sujet du jour. Franck Ferrand vous parle de Charles Lebrun, le peintre de Louis XIV. Vous pouvez donc envoyer vos messages à Franck Ferrand et ses invités sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Le Louvre-Lens propose une exposition jusqu'au 29 août consacrée à Charles Lebrun, le peintre du Roi Soleil, effectivement l'un des artistes les plus proches de Louis XIV. Et vous nous en parlez cet après-midi, Franck Ferrand.
On imagine bien qu'un homme qui se trouve à la tête de tous les domaines de l'art d'un siècle comme celui de Louis XIV, vous imaginez, il est celui par lequel tout passe, en tout cas du temps de Colbert, pendant toute la longue faveur du ministre Colbert. On imagine qu'un homme comme celui-là est forcément très entouré et qu'il se doit d'être naturellement un chef d'équipe et même au-delà de cela, un meneur d'hommes. L'autoritarisme de Lebrun va lui être reproché. Dans la préface au catalogue de l'exposition du Louvre-Lens, Jennifer Montagu, qui est membre honoraire de l'Institut Warburg, nous dit, elle évoque l'image que l'on peut avoir de Lebrun, elle nous parle de ce dictateur qui régissait la production des sculpteurs et faisait en sorte que tous les peintres travaillent dans le même style que le sien. Ça n'est pas une critique. Encore une fois, c'est tout à fait admirable d'être arrivé à cela. Et pas seulement dans le domaine de la peinture, vous l'aurez compris. Lebrun dessine toutes sortes de projets pour des sculptures, pour des fontaines, pour du mobilier, que ce soit du mobilier en argent ou du mobilier de bois doré un peu plus tard, pour toutes sortes de détails de décoration intérieure. Il va livrer lui-même un certain nombre de modèles, ce qu'on appelle des cartons, pour des tapisseries tissées au gobelin. Et l'on a systématiquement l'utilisation des grandes thématiques, les quatre éléments, les quatre saisons, l'histoire de Méléagre, les mois, les maisons royales, l'histoire du roi, tout ça constitue autant de suites de tapisseries que vont tisser les gobelins, des tapisseries qui pour beaucoup d'entre elles, malheureusement parce qu'elles étaient en partie tissées de fils d'or, pour beaucoup d'entre elles seront détruites à la Révolution, mais il nous en reste bien entendu, et tout ce qui nous reste fait l'admiration aujourd'hui des visiteurs des grandes demeures françaises. Lebrun est lui-même nommé directeur des Gobelins en 1663. Il veille à ce moment-là à la formation des artisans, rôle extrêmement important, vous imaginez. C'est lui qui va former tous ceux qui plus tard, à la fin du règne de Louis XIV et encore sous le règne de Louis XV, donneront aux arts décoratifs français leur primauté tellement extraordinaire. Il contrôle la production des meubles, des tapisseries. Rien ne sort en quelque sorte des manufactures royales qui n'aient reçu l'imprimatur de ce sieur Lebrun qui impose son style. On le voit particulièrement bien son style dans le grand appartement du château de Versailles et dans la galerie des glaces, hein, qu'on appelle à l'époque la grande galerie, avec ses guéridons, ses girandoles, ses candélabres, ses suspensions, ses lustres inouïs, ses meubles, ses sièges incroyables, ses cadres de miroirs en argent massif. Nous avions ici même consacré au mobilier d'argent de Versailles une émission entière à l'occasion de l'exposition « Quand Versailles était meublé d'argent » en 2007. J'avais évoqué à l'époque ses splendeurs. Il faut vous dire que l'exposition « Quand Versailles était meublé d'argent » donnait une idée de ce qu'avait pu être la splendeur des appartements du temps de Louis XIV, mais qu'on avait affaire à des productions essentiellement d'Europe du Nord, en tout cas pour beaucoup d'entre elles, ou d'Angleterre, des productions dont beaucoup étaient en métal argenté ou en feuilles d'argent et non pas en argent massif comme du temps de Louis XIV. On ne peut pas se faire une idée aujourd'hui de ce qu'a dû être la splendeur de la Galerie des Glaces à cette époque. Or, vous savez qu'en 1689, pour subvenir aux besoins de la nouvelle guerre, de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, Louis XIV va envoyer à la fonte tout son grand mobilier d'argent. C'est un choc terrible pour Lebrun. Ce sont ses trésors, ce sont les chefs-d'œuvre sortis de ses mains, sortis de son imagination, qu'on envoie comme ça à fondre pour fabriquer de la monnaie. C'est terrible. La vérité, et je vous l'avais dit à l'époque, la vérité c'est que si Louis XIV avait encore aimé tout ce grand mobilier, il ne l'aurait sûrement pas envoyé à la fonte. Il a utilisé les circonstances de son temps comme un prétexte parce qu'en fait, tout ce mobilier avait cessé de plaire. Ce mobilier était jugé trop lourd, trop difficile à entretenir. Son caractère littéralement monumental était devenu assez peu conforme au goût de l'époque, à l'envie de légèreté, à l'envie d'enfance. Rappelez-vous cet ordre de Louis XIV, hein, « Je veux de l'enfance partout », à cette évolution du goût vers quelque chose de plus simple, de plus léger, tout simplement. Et pour Lebrun, c'est la fin. Il faut vous dire que déjà, la mort de Colbert en 1683 avait privé le premier peintre de cette protection tellement efficace. On avait vu le nouveau maître de l'heure, Louvois, pousser son propre candidat qui s'appelait Pierre Mignard. C'est qu'autrefois, en français, Mignard, ça signifiait gracieux, délicat, mais alors délicat dans une acception un peu mièvre. Eh bien, c'est le nom de ce peintre qui va peu à peu supplanter Lebrun. Mignard, aux yeux de Lebrun, était Mignard, c'est-à-dire affêté, sans force. Et néanmoins, il le voit lui succéder dans la plupart de ses charges et il voit ses chefs-d'œuvre prendre la direction des fours de la monnaie. Plus que Lebrun ne peut supporter tout cela. C'est insupportable, évidemment. Lebrun tombe malade. Il voit Louis XIV continuer de lui faire des grâces. On essaie d'être aimable avec lui, mais c'est encore pire. Ça rend encore plus douloureuse l'ascension du rival Mignard. Et l'on sait que Lebrun va mourir en 1690, alors qu'on est en train de frapper de nouvelles pièces dans l'argent fondu de ses trésors disparus. Les dernières années de sa vie, Lebrun s'est remis à peindre des toiles de chevalet. Il a travaillé dans le souvenir de Poussin, avec qui il avait étudié à Rome. Il a fait des œuvres touchantes et pleines d'émotions, une adoration des bergers notamment, dont l'émotion naît de tout le clair-obscur. Et sur cette peinture, Jacques Tuillier dira en 1968 que par une sorte de paradoxe, l'œuvre du premier peintre de Louis XIV se conclut par l'accent le plus dépouillé et le plus tendre.
Un extrait des symphonies pour les soupers du roi, signé Michel Richard Delalande sur Europe 1.
Bonjour à tous les deux. Nous avons suivi Lebrun dans l'extraordinaire aventure d'une carrière dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas banale. Avec vous maintenant, nous allons entrer dans l'œuvre de ce monsieur.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Franck Ferrand pour nous parler de celui qui était peut-être l'artiste le plus proche du roi Soleil, Charles Lebrun. Vous recevez Serge Legas, conférencier des musées nationaux, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts, et Bénédicte Gadi, qui est docteur en histoire de l'art et qui travaille au département des arts graphiques du Louvre, co-commissaire de l'exposition Charles Lebrun, le peintre du roi Soleil, à voir jusqu'au 29 août au musée du Louvre-Lens.
On aurait pu imaginer, Bénédicte Gadi, que cette exposition ait lieu au château de Versailles. A priori, c'était le lieu indiqué pour parler de Lebrun, non? Et vous nous emmenez à Lens, en vérité.
Alors Versailles, ça allait de soi et c'est bien pour ça qu'on ne l'a pas fait.
Ça aurait fait ton sur ton, en fait, c'est ça?
Exactement. En réalité, c'est à Versailles qu'avait eu lieu la rétrospective précédente, mm-hmm. en 1963.
Oui, ça ne rajeunit personne.
Non, à l'initiative d'André Malraux. Donc c'était une initiative politique que de faire une exposition Lebrun à Versailles. Et à notre avis, à Nicolas Milovanovic et à moi-même, ça a nuit à la perception de l'artiste. L'exposition devait être fantastique, je ne l'ai pas vue.
Ça, sans doute, oui.
Le catalogue est extraordinaire, mais néanmoins, le lien entre Lebrun et le roi Soleil a continué à être néfaste à la perception proprement artistique de Lebrun.
C'est-à-dire qu'en fait, le décor même de Versailles et la célébrité des lieux a fini par porter ombrage à Lebrun, qui n'est pas que ça d'une certaine manière.
Oui, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on ne voit en Lebrun que le promoteur de ce qu'on appelle à tort d'ailleurs une propagande royale. Or, ce que nous voudrions montrer dans Lebrun, c'est un génie pictural et un génie d'organisation. Donc il ne s'agit pas de nier Versailles, ce serait absurde, mais il s'agit de montrer comment Lebrun procède, avec quel talent il procède et à quel point c'est un artiste essentiel pour la deuxième moitié. C'est le premier artiste de la deuxième moitié du XVIIe siècle en France.
Et c'est pourtant un conservateur du château de Versailles qui, l'un des premiers à redonner à Lebrun toute son importance dans notre histoire de l'art, c'était Pierre de Nolhac. Et Nolhac raconte ce dîner où il se trouve à côté de Puvis de Chavannes et où il lui dit « Oh, vous savez, moi je passe sous les voûtes de la Galerie des Glaces tous les jours et je ne lève même plus la tête pour regarder l'étoile de Lebrun. » Et Puvis de Chavannes lui avait dit « En quoi vous avez grand tort, jeune homme, car il y aurait beaucoup à apprendre de ces voûtes-là. » Et c'est vrai que, d'une certaine manière, ce qu'on a appelé l'art français a connu une deuxième naissance au tout début du XXe siècle, lorsqu'on a redécouvert ces grands peintres qui, peut-être par leur évidence, tout simplement, avaient fini par disparaître de notre paysage et de notre mental. Alors, je disais tout à l'heure, Serge Legas, que Lebrun était d'abord un peintre parisien avant d'être un peintre versaillais. Il ne faut pas oublier cette dimension-là, peut-être.
Oui, et je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir justement à quel point, avant les grands décors, entre autres les décors de Versailles, il y a toute une œuvre de Lebrun qui se situe dans ce que l'on appelle les grandes demeures parisienne. L'hôtel Lambert est une des plus célèbres, évidemment, et qui montre à quel point Lebrun est quelqu'un qui donne, j'allais dire, un esprit à sa peinture et à la peinture française tout à fait nouveau. Et je pense que c'est ce que l'exposition montre très bien, c'est à quel point on est en dehors justement uniquement de ce que l'on a appelé le grand siècle, avec un côté presque un peu académique au sens du terme, et de montrer que Lebrun est justement quelqu'un qui se forme dans une peinture totalement différente.
Aux meilleures sources, François Perrier, Simon Vouet, on est vraiment...
Les très très grands ateliers du début du XVIIe siècle, de toute cette période qui est vraiment la grande période qui met en place ce que l'on peut appeler cet esprit français. Et Lebrun est totalement formé à cette école et apporte vraiment par la suite un souffle nouveau. Mais le point de départ, ce sont deux très grands ateliers, ceux que vous venez de mentionner, Franck, François Perrier et Vouet.
L'architecture avec François Mansart, la littérature avec Pierre Corneille, enfin, on est au sommet à cette époque-là de ce qu'on va appeler le grand style. Et c'est dans ce creuset-là que Lebrun va faire ses armes. Il va apprendre aux meilleures sources.
Il est aux meilleures sources. Il est totalement par rapport à tout ce qu'apporte cette formation très solide, qui est cette formation que l'on retrouvera d'ailleurs dans tout ce que Lebrun sait admirablement mettre en valeur, entre autres ce travail du dessin, ce travail de la couleur, puisque je crois que c'est aussi une des choses que l'exposition montre très bien. C'est le talent de coloriste de Lebrun, et justement on le libère un petit peu de ce côté dictateur de l'art qu'on a beaucoup voulu décrire, et que, heureusement, maintenant, on remet en cause. Et la formation de Lebrun explique beaucoup de cette liberté.
Je disais tout à l'heure qu'on a de Lebrun l'image d'un décorateur, d'un peintre d'ornement. Il a été tout autre chose. Et il commence par des scènes qui sont des scènes de la vie, des scènes de genre,
oui,
Bénédicte.
Oui. Alors l'exposition surprend par cela, notamment, oui. C'est qu'on commence par toute une série d'œuvres que personne n'a vues, parce qu'elles ont été découvertes au cours des dernières années, parce que personne n'imaginait que cela pouvait revenir à Lebrun. Ce sont des petites peintures sur bois qui représentent la vie quotidienne, mais toujours pour des séries allégoriques. Il ne s'agit pas de représenter la vie quotidienne pour elle-même. Donc, par exemple, on a une petite scène de l'enfance où vous voyez un enfant emmailloté qui tête sa nourrice et à côté des enfants en robe, garçons ou filles, hein, puisqu'on portait la robe jusqu'à l'âge de 7 ans, qui jouent qui avec un cheval bâton et un tourniquet, qui joue à la poupée avec un chat emmailloté, puisqu'il s'agit de reproduire les gestes. Donc c'est vraiment très très savoureux, et ça, ce sont des scènes tout à fait originales et qui se rattachent à un courant qui est celui de la gravure populaire dans les années 1630. Avec des gens comme Abraham Bosse. Et donc Lebrun donne des modèles pour cette gravure populaire. Et ces tableaux ne sont pas des tableaux de collection, mais des modèles pour la gravure populaire.
Et plein d'une vie extraordinaire. Hein. Il sait saisir ça. C'est quand même assez étonnant. Ce n'est pas l'image qu'on a conservée, évidemment, du grand Lebrun.
Non, non, ce n'est pas l'image, mais c'est tout à fait juste. Il sait saisir l'enfance, il sait saisir les animaux comme personne. Il sait donner aux animaux une expression extraordinaire. Et il peint tout cela à la pointe du pinceau, d'une manière très légère, très rapide et extrêmement savoureuse.
Alors un homme qui travaille pour ses premières commandes, pour des financiers, pour des magistrats, pour ce qu'il y a de plus relevé à Paris, ne pouvait que finir, j'allais dire, entre les griffes du cardinal de Mazarin, bien entendu, Serge Legas.
C'est évident, les grands comme collectionneurs, les grands mécènes de l'époque ne peuvent que s'intéresser à des artistes aussi porteurs, aussi prometteurs que le talent de Lebrun. On pourra dire aussi d'ailleurs que ce sera tout à fait la même chose par rapport à Mignard, qui sera reconnu aussi.
Est-ce qu'il est un peintre de corporation, si je puis dire? Est-ce qu'il fait partie de ce monde de la peinture parisien?
Oui, il est complètement inscrit dans cet univers de la peinture, mais je dirais que l'une
par
des choses,
mariage,
par son mariage, complètement, puisqu'il reste dans ses associations, si je puis dire, que sont ces mariages entre artistes et familles d'artistes. On est dans une sorte de lien traditionnel que l'on retrouve. Et ce qui sera peut-être aussi, à mon avis, très intéressant avec Lebrun, je pense que Bénédicte sera d'accord, c'est à quel point il y aura par la suite cette sorte d'émancipation de la peinture que représente évidemment la création de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et Dieu sait que Lebrun en fera partie. Et là, ça sera un moyen.
Il est un des 12 premiers membres.
Bien sûr,
membres,
il est dans les membres fondateurs, ce qu'on a appelé les 12 anciens. Et il apportera justement à la peinture cette libération nouvelle, puisqu'on a toujours une vision aussi caricaturale de l'Académie avec un sens très rigoriste. À la base, c'est quand même moyen de libérer les artistes du vieux système de la maîtrise qui était quand même très contraignant.
Je parlais de sources à l'instant. C'est quand même quelqu'un qui est allé à l'origine de l'art occidental. C'est-à-dire qu'il a fait son voyage en Italie, bien entendu, Bénédicte
oui,
Gaddi.
Il est allé en Italie en 1642 avec Nicolas Poussin, qui rentrait d'un séjour un peu infructueux à Paris. Alors, on a toujours présenté ce séjour italien comme l'achèvement d'une formation. C'est le cas en général pour les artistes. Dans le cas de Lebrun, c'est un peu différent. Parce que dès le début des années 40, oui. En 1640-41, Lebrun a déjà eu une commande pour le cardinal de Richelieu, qui était le premier ministre de l'époque. Donc il a déjà une de ses œuvres dans le palais cardinal, notre actuel palais royal. À la même période, il a déjà offert un de ses tableaux pour la chapelle des peintres et sculpteurs à Paris. Donc deux de ses œuvres ornent des endroits les plus prestigieux. Et donc il part à Rome, mais vraisemblablement à la demande du chancelier Séguier. Et à Rome, il absorbe tout, mais très vite, il considère qu'il a déjà tout absorbé et il veut rentrer à Paris. Donc c'est si vous voulez, le voyage à Rome intervient comme une parenthèse dans une carrière déjà très engagée et non pas comme l'achèvement tout à fait naturel d'une première formation. Et c'est une parenthèse qui lui apprend beaucoup, mais très vite, il veut rentrer à Paris.
Vous montrez des tableaux romains dans l'expo.
Bien sûr, on montre toute une section de tableaux. Alors c'est très amusant parce qu'on a fait deux ponts de mur qui s'affrontent avec d'un côté des tableaux très poussinesques où Lebrun s'est amusé à plagier le maître, à faire des pastiches. Et les biographes nous disent même qu'il a fait passer un de ses tableaux, Horatius Coclès, défendant le pont Sublicius pour un Poussin et qu'il a dû révéler la supercherie que quand les Romains sont allés féliciter Poussin. Et puis on regarde. On met des tableaux d'une toute autre ampleur, inspirés, beaucoup plus caravagesques, si vous voulez, inspirés de Guerchin, d'Annibal Carrache. Donc le contraste est très fort et montre à quel point Lebrun sait absorber toutes les tendances.
Il y a eu, on se rappelle évidemment, cette célèbre affaire du tableau du Ritz, qui est un tableau de cette époque à peu près. On est au milieu des années 1640.
Oui, 1647. Le tableau, exceptionnellement, est monogrammé et daté.
Le sacrifice de Polyxène.
Exactement. Alors ça, ça fait toute une histoire parce que en 2012, lorsque le rite a fermé et qu'un inventaire a été lancé, dans la suite de Coco Chanel, au-dessus d'un bureau, est apparu ce tableau absolument extraordinaire. Malheureusement, les historiens de l'art ne vont pas assez dans les grandes suites des hôtels internationaux et donc personne ne l'avait vu. Et du coup, le tableau a été très vite identifié et présenté en vente publique l'année suivante. C'est un tableau vraiment extraordinaire. Il est monogrammé CLBF, Charles Lebrun Fekit, daté de 1647. Et c'est le Metropolitan Museum de New York qui l'a acquis. Alors, donc, il est au Louvre-Lens aujourd'hui.
D'un grand établissement à l'autre, comment Lebrun est-il passé de ses hôtels particuliers parisiens, de ses grandes commandes pour la haute société du premier tiers, la première moitié du XVIIe siècle, à Vaux-le-Vicomte, mondialement célèbre? C'est ce que nous allons voir dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Charles Lebrun, le peintre du roi Louis XIV, le roi Soleil, effectivement, une expo au Louvre-Lens est proposée jusqu'au 29 août avec vos invités. Ils sont de Serge Lega, conférencier des musées nationaux et professeur à l'Institut d'études supérieures des arts, et Bénédicte Gadi, docteur en histoire de l'art qui travaille au département des arts graphiques du Louvre.
Si l'on veut s'immerger dans l'univers de Lebrun, soit on va au Louvre-Lens, bien entendu, Bénédicte Gadi.
Et là, on va au Louvre-Lens.
On y va. Soit, et c'est plus près si l'on est dans la région parisienne, on va refaire un tour au château de Vaux-le-Vicomte, évidemment. C'est son monde qui est là.
Bien sûr, alors je vous engage à aller aux deux, bien entendu. Non, le château de Vaux-le-Vicomte, c'est un miracle. C'est vraiment une des plus belles demeures conservées malgré les affres de notre histoire. Et tous les décors de Lebrun, je vais faire une petite réserve tout à l'heure, tous les décors de Lebrun sont présents, tous ceux qu'il avait exécutés. Alors malheureusement, le chantier s'est arrêté très brusquement.
Oui, on n'a pas eu la grande voûte, malheureusement, du vestibule central, du grand salon.
On n'a pas eu la grande voûte du grand salon, donc les dessins préparatoires sont présentés à Lens. Mais on peut voir en revanche l'appartement de Fouquet avec la très célèbre chambre des muses, le cabinet des jeux loué par La Fontaine. Enfin, c'est absolument exquis. Et on voit, en regard, l'appartement du roi, qui lui est fait de peinture et de stuc, donc avec une hiérarchie entre les deux. Et on voit à quel point Lebrun avait la capacité à concevoir des ensembles à la fois très grands et très variés et très hiérarchisés. Et c'est ce qui plaît au roi très clairement.
Il maîtrise
c'est
toutes les techniques, ça c'est assez extraordinaire.
Alors il donne des dessins pour tout. On sait qu'il a sculpté un peu enfant, mais on ne connaît aucune sculpture de lui. Il donne des dessins. Et ce sont en général de petits dessins qu'ensuite les sculpteurs interprètent à leur manière, avec toujours un objectif d'harmonie. Mais il donne des dessins aussi pour l'orfèvrerie, il donne des modèles pour la tapisserie. Et Nicolas Fouquet avait fondé aux portes du château une manufacture de tapisserie. Donc il est capable vraiment de couvrir tous les arts par le dessin. Et c'est ce qui lui fait considérer que le dessin est premier.
On dit souvent que Louis XIV, à la disgrâce de Fouquet, a récupéré le veau, le nôtre et le brun. C'est pas tout à fait aussi simple que ça, en fait, Serge Lega. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé.
Ce qui est aussi intéressant, je dirais, dans un premier temps, c'est de voir déjà à quel point le brun a eu cette chance de rencontre très exceptionnelle de personnages importants, puisque Bénédicte en a parlé.
Fouquet,
voilà.
Mazarin.
Je crois quand même le rôle de Séguier est essentiel pour la carrière. C'est vraiment le mécène au sens traditionnel du terme. C'est quelqu'un qui va totalement prendre en charge cet artiste en devenir à ce moment-là. là, qui d'ailleurs, comme on vient de le dire, est un peu à l'origine du voyage italien. On sait que Séguier est vraiment le personnage qui souhaite ce voyage italien pour Lebrun, voyage qui est indispensable à l'époque. Et c'est vrai que par la suite, il y aura le rôle de Fouquet, comme par la suite le rôle de Colbert. Donc c'est vraiment des successions de rencontres très très importantes.
Colbert ne fait que récupérer les différents artistes qui travaillent déjà pour le roi et pour des commandes d'État, en fait. Hein.
Oui, absolument. Ce qui est certain, et ce qui est un mythe, c'est l'idée, comme vous le disiez, que Louis XIV ait récupéré de Fouquet.
Faire son marché.
Exactement.
Voilà.
On a même vu une publication avec la visite du roi au Gobelin. Vous savez, la très célèbre visite dont on montre la tapisserie dans l'exposition où Louis XIV voit tout ce qui se fabrique au Gobelin.
On le lui présente, c'est magnifique.
Intitulé « Louis XIV se saisissant des biens de Fouquet ». Alors ça, effectivement, c'est un mythe. Hein. Lebrun avait déjà fait un plafond au Louvre avant de partir travailler chez Fouquet. Le nôtre était déjà jardinier des Tuileries et Levaux était déjà premier architecte du roi. Donc le roi ne les découvre pas à Vaux-le-Vicomte.
Non.
Ce qui est certain pour Lebrun, c'est que c'est à Vaux-le-Vicomte que pour la première fois, on lui offre un chantier à la mesure de son talent.
Et ce talent va l'amener à travailler dans les plus grandes demeures royales. Et évidemment, il sera parmi les chantiers, et n'oublions jamais le Louvre, Saint-Germain et bien d'autres, mais parmi les grands chantiers, évidemment, il sera l'un des principaux artistes de Versailles. Est-ce qu'on peut dire de Lebrun qu'il a en quelque sorte forgé, qu'il a donné sa forme définitive à ce qu'on appellera plus haut ou plus tard le style Louis XIV ?
Absolument. Il a donné sa forme définitive au style Louis XIV. Bon, sa forme définitive, évidemment,
oui, enfin,
ça peut évoluer, mais c'est lui qui a conçu à la fois ces grands décors, leur manière de se dérouler, mais aussi, et c'est là qu'on peut parler de style Louis XIV, comme il a donné des modèles pour l'orfèvrerie, pour la sculpture, si vous voulez, il a tenu toutes les axes, enfin toutes les parties de ce style, et en ce sens-là, on lui est redevable.
Ça donne une image, une idée de l'incroyable fécondité de cet artiste. Lebrun produisait dans des proportions phénoménales, Serge Legas, pour un seul commanditaire à partir de là.
Oui, c'est ça. On est à ce moment-là dans quelqu'un qui est totalement centralisé sur ses grandes commandes officielles. Versailles l'occupe au combien. Mais on voit aussi à quel point il y a autour de Lebrun cette merveilleuse équipe, c'est-à-dire les collaborateurs qui sont d'ailleurs parfaitement bien mis en valeur dans l'exposition, où on voit à quel point Lebrun sait aussi merveilleusement s'entourer. Il sait, pour le paysage, choisir, entre autres, Van der Meulen, il sait choisir les peintres animaliers qui viennent compléter le travail, qui est le travail qu'il apporte à tous ses décors. Et l'une des choses qui ressort aussi, je pense, beaucoup, c'est à quel point Lebrun est un peintre savant. C'est-à-dire, quand on regarde ses programmes iconographiques, on prend conscience à quel point il y a une intelligence et à quel point le programme est pensé, réfléchi. On n'est vraiment pas uniquement dans un travail qui est le travail de la peinture pour l'œil, c'est vraiment une peinture pour l'esprit, et ça ressort admirablement chez Lebrun.
Oui, c'est une peinture allégorique, symbolique, il y aurait tant à dire.
Beaucoup, beaucoup de messages qui sont évidemment des messages codés.
Dans l'exposition que vous avez montée pour le Louvre-Lens avec Nicolas Milovanovitch, justement, Bénédicte Gadi, vous avez essayé de montrer la collaboration, si je puis dire, avec le roi lui-même. Jusqu'où Louis XIV intervient-il dans ce genre de travaux ?
Alors, pour la Grande Galerie, par exemple, la galerie qu'on appelle aujourd'hui Galerie des Glaces de Versailles, on sait et on montre que Lebrun a produit deux immenses dessins sur d'autres thèmes. Le premier portait sur le thème d'Apollon, ce qui paraît assez logique.
Donc on était plus allégorique, hein, plus mythologique.
Voilà,
oui.
C'était complètement mythologique, c'était tout à fait dans la succession de la Galerie d'Apollon au Palais du Louvre. Sauf qu'au Palais du Louvre, c'est un Apollon cosmique et bienveillant qui répand sa chaleur sur le monde entier et à travers toutes les saisons. À la Grande Galerie de Versailles, cet Apollon-là est un Apollon justicier qui tue les gnobides. Enfin, c'est vraiment un Apollon guerrier. Donc en ce sens-là, on est déjà dans ce qui va se produire ensuite. Le dessin n'a pas eu l'heure de plaire et Lebrun a fait une deuxième copie, en quelque sorte, cette fois-ci sur le thème d'Hercule, mais donc toujours sous ce voile mythologique. Et on sait que c'est le roi en son conseil, enfin le conseil privé du roi, qui a demandé à Lebrun...
On laisse tomber la mythologie. Hein.
Et qu'on représente le roi lui-même à la tête de ses troupes, mais surtout
par
voilà,
n'est-ce pas, hein.
Qui fait le centre de la galerie. Et ce qui est plus curieux, c'est que c'est le roi lui-même, mais c'est le roi dialoguant avec des allégories. Donc on a un mélange en quelque sorte des genres.
Il semble néanmoins que les années passant, Louis XIV se soit un peu lassé du grand style de Lebrun. On a pu en juger au moment de l'exposition sur le mobilier d'argent à Versailles, car on a vu que, outre les considérations purement matérielles, il y avait une question de goût qui intervenait dans le renvoi, dans l'envoi à la fonte de tout ce mobilier d'argent. Lebrun a mal vécu ça, évidemment. Il a vu son grand concurrent Mignard, petit à petit, lui tailler des croupières. Est-ce que la fin de sa vie est un peu amère? Est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, on peut dire ça. La fin de sa vie est assez triste à partir de 1683 et de la mort de Colbert.
Oui, son grand protecteur.
Il subit une semi-disgrâce. Le marquis de Louvois ne l'aime pas. Il aime son rival de toujours qui est Pierre Mignard, qui est un homme tout aussi âgé que lui et à qui il confie, par exemple, la petite galerie de Versailles. Lebrun, lui, donc, subit cette disgrâce. Il garde ses titres, mais il n'assume plus ses charges. En revanche, le roi lui manifeste toujours une certaine affection et un certain goût. C'est-à-dire que Lebrun, à ce moment-là, et ça fait l'objet d'une section de l'exposition, Lebrun, à ce moment-là, se concentre sur une série de tableaux de chevalet et il les présente au roi à chaque fois. Et le roi les garde et les met dans ses petits appartements. Donc, c'est un peu ambigu. Il est déchargé des grandes commandes, mais néanmoins, le roi lui garde son affection.
Oui, c'est très beau, je trouve, cet équilibre qui a finalement été...
Ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'il y a entre autres, dans ces derniers tableaux, je trouve une production religieuse qui est d'une qualité absolument exceptionnelle. On sent un Lebrun nouveau. On a l'impression qu'après
l'appel
les grandes...
de Dieu. Ah,
complètement. Et après les grandes compositions allégoriques, on a l'impression d'une sorte de peinture religieuse extrêmement touchante, avec des scènes où il y a une sorte d'intimisme qui ressort. Et je dirais une profonde conviction qui émane de ces tableaux d'un homme qui est au crépuscule de sa vie. Donc c'est en plus très très touchant. Je trouve toute cette production-là.
Un peu de grandeur dans notre petitesse. C'est l'expo que nous propose le Louvre-Lens, Lebrun, peintre du Roi Soleil, jusqu'à la fin du mois d'août, où l'on retrouve au-delà de l'artiste le pur et simple inventeur d'un style. Merci beaucoup.
Et dans un instant, de la gourmandise sur Europe 1 avec Franck Ferrand qui va vous donner les origines du Vacherin. À tout de suite.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et parce que c'est l'heure du dessert aujourd'hui, vous nous proposez un retour aux origines sucrées, Franck Ferrand, avec cette question de Noémie sur Europe1.fr qui vous demande les origines du Vacherin.
On a très envie, dans la foulée de ce que nous étions en train de dire, de parler des grands desserts architecturés du siècle de Louis XIV. Alors, pour ce qui est du Vacherin, il faut vous dire que c'est beaucoup plus récent. Ça date du XIXe siècle. Ce gâteau meringué fourré de sorbet et de fruits confits et masqué de crème chantilly, ça nous vient de Lyon, ce Vacherin. Et ça tire son nom d'un fromage suisse qui, lui, était bien plus ancien, le Vacherin fribourgeois, un fromage mou au lait de vache crue, qui est mentionné très tôt dès le XIIIe siècle et se déguste à la cuillère, cerclé par une écorce de sapin. C'est absolument divin. Il y a un cousin jurassien de ce Vacherin qui s'appelle le Mont d'Or et qui aujourd'hui fait la joie des gastronomes. Dans son livre « L'histoire à table », Castelot nous dit que la fondue au Vacherin est la plus succulente des fondues, pimentée légèrement aillée, corsée d'un rien de poivre. Elle ne doit jamais bouillir, surtout. Alors, ce Vacherin a aussi sa recette. En 1265, un moine appelé Vacarinus, fils de berger, introduit la recette secrète de ce fromage à l'abbaye de Montserrat en Espagne. Les moines en raffolent. Pourtant, il y a là un dilemme théologique. Le Vacherin est-il un fromage gras? Auquel cas, on ne peut pas en manger durant le carême. À la satisfaction générale, on finit par conclure que les vaches sont maigres en hiver au moment du carême. Donc, le Vacherin n'est pas un fromage gras. Jusqu'où peut aller se nicher la casuistique, vous l'avouerez. Entre parenthèses, nous avons un peu déraillé, nous, parce que nous sommes en train de vous parler d'un fromage, alors que la question de Noémie portait sur le délicieux Vacherin à la glace et à la meringue. Pâtisserie lyonnaise, donc.